VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nous sommes le vendredi 27 avril 2018. Jacques Aristide avec vous à la une ce soir. L'opposant congolais Moïse Katumbi affirme qu'il rentrera en RDC d'ici juillet pour défier le président Kabila. 12 civils Touareg ont été tués dans le nord-est du Mali, à la frontière avec le Niger. Les deux Corées s'engagent pour la paix lors d'un sommet historique.
Pour la Corée du Nord, il y a un revirement complet, puisque jusqu'ici, eh bien, c'était le programme nucléaire qui passait avant tout.
Dans la partie magazine, coup de projecteur sur un mémorial pour les victimes du lynchage à Montgomery, dans l'État américain d'Alabama.
Mon expérience ici, c'est une douleur profonde.
Et puis, à venir en fin de journal, vous rendez-vous avec l'économie et les sports. L'opposant congolais Moïse Katumbi a déclaré ce vendredi que le président Joseph Kabila ne lui faisait pas peur. Candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre prochain, M. Katumbi est en exil depuis 2 ans et se trouve en ce moment au Rwanda voisin. Juillet arrive à grands pas, je vais revenir en RDC, dit-il. Les candidats doivent déposer leur dossier en juillet. M. Katumbi risque la prison s'il rentre au pays après avoir été condamné dans une affaire immobilière dont il conteste tout fondement. Il est par ailleurs accusé d'avoir recruté des mercenaires et d'avoir détenu la nationalité italienne alors que la nationalité congolaise est exclusive. Toujours en République démocratique du Congo, au moins 4 civils sont morts noyés dans le nord-ouest du pays. Il a tenté de fuir vers le Congo-Brazzaville voisin, des violences entre l'armée et des assaillants. Nathalie Barge.
Des embarcations transportant des villageois ont chaviré sur la rivière Ubangi, un affluent du fleuve Congo qui sépare les deux pays. Jusqu'à mercredi soir, nous avons récupéré 40 corps sans vie, des personnes noyées alors qu'elles traversaient cette rivière sous de fortes pluies accompagnées d'orages, a déclaré Jean Bakatoy, vice-gouverneur de la province du Sud Ubangi. Le bilan est encore provisoire parce que d'autres corps sont charriés plus loin par les eaux de la rivière, a-t-il précisé. Les faits remontent à lundi, selon lui, un mouvement de panique a été constaté à Dongo qui a poussé la population à fuir après l'attaque à l'arme blanche d'une position de l'armée par des hors-la-loi. Des habitants ont dit avoir vu les corps de 2 soldats et 4 assaillants tués par balle. Les habitants de cette zone sont marqués par la rébellion de la communauté Enyele en 2009 et les opérations de l'armée qui ont maté les insurgés en 2010. Le bilan avait été de 270 morts et 200 000 réfugiés et déplacés.
Au Mali, 12 civils ont été tués par des hommes lourdement armés dans la nuit de jeudi à vendredi. Les assaillants venus à moto ont fait irruption dans un campement à Aklaz, une localité située à l'est d'Andéram-Boukane, vers la frontière entre le Mali et le Niger. Le compte-rendu de notre correspondant au Mali, Kassim Traoré.
Menaka s'est réveillée avec une nouvelle triste. La communauté Idassak est en deuil. Elle a perdu 12 personnes, dont des vieillards et des adolescents. Ils ont été à la surprise générale des habitants de Menaka, tués par des terroristes. Souley Diallo est enseignant à Menaka. Pour lui, il y a bientôt 3 mois que des combats se déroulent à la frontière Mali-Niger, et plus précisément à Andéram-Boukane, située à 100 km de Menaka-ville. C'est la coalition MSA-Gatcha qui évolue dans cette zone contre les terroristes. Ils sont souvent épaulés par Barkhane et les FAMA. Le campement d'Aklis est une zone très proche du Niger. C'est une zone de repos des terroristes et autres bandits, explique l'enseignant. Certaines notabilités d'Andéram-Boukane disent que Aklis est une zone très dangereuse. D'autres responsables de la région disent avoir appris avec tristesse ces exécutions. Le gouvernement de Menaka n'a pas voulu faire de commentaires. Les administrateurs préfèrent que des voix plus autorisées se prononcent sur cette manière de tuer des civils sans armes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, un leader religieux chiite emprisonné depuis plus de 2 ans devra répondre de nouveaux chefs d'accusation, notamment d'homicide volontaire, en relation avec des affrontements meurtriers qui avaient opposé ses partisans à l'armée en 2015. Ibrahim Zaki, chef du mouvement islamique du Nigeria, avait été arrêté en décembre de la même année après les violences qui avaient secoué la ville de Zaria dans l'état de Kaduna. Il est donc toujours en détention malgré le jugement ordonné. Sa libération. Toujours au Nigeria, au moins 4 personnes ont été tuées lors d'un assaut mené par des combattants de Boko Haram contre Maïdougouri. Le groupe a tenté une incursion hier soir dans un quartier périphérique de cette grande ville du nord-est. 5 kamikazes ont également été tués en déclenchant leur explosif. Le patron de l'ONU a décidé d'envoyer immédiatement à Madagascar à son conseiller pour ce pays secoué depuis une semaine par une crise politique. Lors d'un appel téléphonique ce matin, Antonio Guterres a parlé avec le président de Madagascar, Ir Rajonar Mampianin. 7 morts dans un accident de train en Afrique du Sud. Le train a percuté ce vendredi un véhicule sur un passage à niveau à Black Heath, à la périphérie du Cap. Les victimes sont des hommes qui se rendaient au travail dans un pick-up. D'après les autorités, il s'agit d'une erreur humaine. Des milliers de personnes ont manifesté ce vendredi dans plusieurs villes du Malawi pour protester contre la corruption présumée du gouvernement. Les protestataires réclament la démission du président Peter Mutharika dans le cadre des premières manifestations anti-gouvernementales depuis 2011. L'ancienne présidente du pays, Joyce Banda, qui est accusée d'être impliquée dans un gigantesque scandale de corruption et vit en exil depuis 2014, doit rentrer dans son pays demain samedi en dépit du risque d'être arrêté pour corruption. Un film kényan, Rafiki, qui doit être présenté au prochain festival de Cannes, a été interdit ce vendredi de diffusion par les autorités car, disent-elles, il fait la promotion du lesbianisme. Pour la commission de censure du Kenya, la promotion de l'homosexualité est illégale et heurte la culture et les valeurs morales du peuple kényan. Rafiki, qui signifie « ami » en Kiswahili, a été adapté d'un roman de l'Ougandaise Monica Araka Nieko. Il raconte l'histoire d'un coup de foudre entre 2 jeunes femmes appartenant à des camps politiques opposés. La cinéaste kényane Wanuri Kayu estime que les adultes kényans sont assez matures et clairvoyants, mais que leurs droits ont été niés. Une coalition marocaine regroupant 21 associations a appelé ce vendredi à l'abandon des poursuites et à la libération de tous les manifestants arrêtés dans le sillage d'un mouvement de protestation sociale dans l'ancienne cité minière de Djerada. Dans un rapport, la coalition marocaine des instances des droits de l'homme exhorte les autorités à ouvrir une enquête sur les violations des droits de la population de Djerada et à mettre fin au climat de terreur.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants des 2 Corées se sont engagés ce vendredi à œuvrer en faveur de la dénucléarisation lors d'un sommet historique dans la zone démilitarisée. Moon Jae-in et Kim Jong-un ont promis qu'il n'y aurait plus de guerre sur la péninsule. Yakuba Ouedraogo.
D'après la déclaration dite de Panmunjom, le village qui sépare les 2 Corées, les 2 dirigeants s'engagent solennellement devant les 80 millions de Coréens et le monde entier qu'il n'y aura plus de guerre sur la péninsule coréenne. Ils ont confirmé l'objectif commun d'une péninsule non nucléaire. Les 2 leaders ont convenu d'une reprise en juin des réunions de famille séparées par la guerre. Ils ont décidé que le président sud-coréen se rendra à l'automne à Pyongyang. Les 2 leaders ont aussi promis de ne pas répéter les erreurs passées qui ont vu tourner court de précédents accords. Kim Jong-un a affirmé que la Corée est au seuil d'une histoire nouvelle. Il est le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de 1950-1953. Il pourrait y avoir sur le chemin des difficultés et des frustrations, a souligné Kim Jong-un, prévenant toutefois qu'ils ne peuvent parvenir à la victoire sans douleur. Nord et Sud disent aussi vouloir rencontrer les États-Unis et la Chine pour établir un régime de paix permanent. Ce sommet intercoréen est le prélude à un face-à-face attendu entre Kim Jong-un et Donald Trump.
Oui, et tout à l'heure à la Maison Blanche, le président américain a salué cette rencontre historique entre les dirigeants sud et nord-coréens. Donald Trump animait une conférence de presse aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel lors de la visite de celle-ci à Washington. Le président Trump a souligné l'enthousiasme de Pyongyang en faveur d'un accord tout en avertissant qu'il ne se ferait pas avoir par Kim Jong-un avant leur tête-à-tête très attendu. Nous allons, je pense, parvenir à une solution et sinon, nous quittons la salle avec grand respect, a déclaré le président américain. Il a accepté de rencontrer Kim Jong-un d'ici juin pour un sommet inédit. Son nouveau chef de la diplomatie, Mike Pompeo, a rencontré lorsqu'il était encore à la tête de la CIA, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, durant le week-end de Pâques, au cours d'une mission tenue en temps secret. Justement, tout juste investi comme secrétaire d'État américain, Mike Pompeo a pour sa première visite à l'OTAN réclamé aujourd'hui des alliés, l'Allemagne en particulier, qu'ils mettent la main à la poche, une requête déjà formulée par le président Trump. Le nouveau patron de la diplomatie américaine à la réputation de faucon a rencontré ses homologues de l'OTAN à Bruxelles quelques heures seulement après avoir prêté serment. Voilà donc pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Les groupes français Orange et Vivendi veulent accélérer le développement du cinéma en Afrique. Ils ont créé un partenariat pour le réseau de salles Canal Olympia dans près d'une dizaine de pays sur le continent. David Kessler, directeur général d'Orange Studio, a indiqué qu'il produit 6 à 7 films africains chaque année et qui sont présentés lors de festivals. La hausse du dollar a provoqué la baisse des prix des métaux précieux. Jeudi, l'or est passé sous la barre des 1 320 $, un plus bas depuis plus d'un mois. L'argent et le palladium ont en particulier suivi la même tendance. Cette hausse du dollar s'explique notamment par le relèvement des taux d'intérêt du Trésor américain et l'absence d'escalade dans les tensions géopolitiques, notamment la tenue du sommet intercoréen. Les États-Unis ont aussi annoncé un report de sanctions sur le groupe russe Rusal, premier producteur d'aluminium. La croissance américaine s'est accélérée à un rythme supérieur aux prévisions. Le produit intérieur brut a progressé de plus de 2% entre janvier et mars dernier. D'après le département du commerce, le produit intérieur brut reflète des contributions positives du côté des investissements, de la consommation, des exportations et des investissements dans les stocks.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité sportive avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Une page se tourne à Barcelone avec le départ confirmé d'André Iniesta.
Proche d'un doublé Coupe Liga avec Barcelone, le capitaine historique a annoncé dans les larmes ce vendredi qu'il partirait en fin de saison et ce après 22 ans dans son club formateur où il laissera évidemment un grand vide. Il a gagné 31 trophées avec le Barça et Iniesta pourrait en décrocher un 32e puisque le FC Barcelone n'a besoin que d'un petit point pour être sacré champion d'Espagne dimanche à la Corogne, ce qui serait un 25e titre de champion en Liga pour le club.
En Angleterre, Manchester City, déjà champion, court après les records.
Après son carton contre Swansea le week-end dernier, 5-0, les hommes de Pep Guardiola ne sont plus très loin de connaître la meilleure saison statistique de l'histoire de la Premier League. Avec 90 points et encore 4 matchs à disputer, les Citizens sont lancés pour faire tomber la barre, placée à 95 points par Chelsea lors de la saison 2004-2005. En cas de succès, Manchester City égalerait le record de 30 victoires des Blues la saison passée. Quant au record de 103 buts de Chelsea entre 2009 et 2010, eh bien les hommes de Pep Guardiola en sont tout proches avec 98 buts.
Le PSG, également champion, aura bientôt un nouvel entraîneur.
Eh oui, l'entraîneur espagnol Unai Emery, en fin de contrat en juin prochain, a officialisé son départ du Paris Saint-Germain après 2 ans sur le banc de touche du club champion de France. Malgré un recrutement à plus de 400 millions d'euros pour se payer Neymar et Mbappé, le PSG, vous le savez, a été éliminé cette saison en Ligue des Champions. Sous le mandat d'Unai Emery, le club parisien a perdu son titre de champion en 2017 avant de le récupérer cette saison. Le PSG qui a remporté aussi le trophée des champions en 2016 et 2017, la Coupe de France en 2017 et la Coupe de la Ligue en 2017 et 2018. Et évidemment, ce n'est pas fini, il reste la finale de la Coupe de France.
Et puis Nicolas, NBA, championnat de basket nord-américain.
Milwaukee a obtenu sa finale en remportant devant son public le sixième match du premier tour des playoffs NBA. Victoire 97-86 face à Boston. Il faudra donc attendre le septième match samedi pour connaître le prochain adversaire de Philadelphie. Quant au meneur de jeu de Golden State, Stephen Curry, absent depuis plus d'un mois, il pourrait faire son retour samedi lors du premier match du deuxième tour des playoffs contre la Nouvelle-Orléans.
Merci Nicolas. Le Monde aujourd'hui, VOA. Eh bien oui, il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Cap sur le Cameroun, la préfecture de Yaoundé a interdit les activités de la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique, la MIDA. Cette organisation distribuait depuis août 2017 de fortes sommes d'argent aux souscripteurs à condition de déposer une caution de 12 500 francs CFA dans ses caisses. L'ONG a collecté plus de 12 milliards avant son interdiction, mais seulement 3 milliards ont été récupérés. Plus de 6 000 personnes ont été attirées par l'affaire et sont aujourd'hui anxieuses de pouvoir récupérer leur argent. Reportage du correspondant de VOA Afrique à Yaoundé, Emmanuel Junta.
Escroquerie par appel public, existence illégale, usurpation de fonction, tels sont les motifs évoqués par le préfet de la ville de Yaoundé pour mettre un terme aux activités de la mission d'intégration pour le développement, MIDA. Depuis lors, Serge Biaillé, souscripteur, est un jeune homme désemparé.
Bon, je me retrouve aujourd'hui à avoir investi 5 millions pour attendre 24 millions de francs. Et ça a été coupé comme ça. Je comptais déjà faire beaucoup de choses.
Serge comptait sur 5 millions du MIDA pour financer son projet d'agriculture et d'élevage de volailles. Puis, habite à quelques mètres du siège du MIDA, au quartier Ahala à Yaoundé. Il avait misé 1,5 million en 4 mois pour un gain espéré de 6 millions de francs CFA. Il accuse l'État d'avoir failli à ses devoirs dans cette affaire.
Personne ne s'est plaint parmi les séminaristes, ceux qui venaient faire leur séminaire là pour espérer avoir de l'argent. Et si même aujourd'hui beaucoup de jeunes sont pris dans cette affaire, l'État du Cameroun a mis beaucoup de projets. Il y a eu un projet des jeunes, on a parlé de 102 milliards. Nous voulons voir ces jeunes-là. Il ne faut pas seulement qu'on demande aujourd'hui que pourquoi les jeunes sont là pour s'intéresser à ce genre de choses.
Le désarroi est encore plus grand au sein de la famille Ekoudi. 8 personnes au total. Toutes ont misé des millions de francs CFA. Julie est cependant la plus affectée de tous.
J'avais fait le séminaire 3 fois, on m'avait payé. C'est la 4e fois que j'ai tout misé, 4 500 000. Et j'attendais à 20 millions. Et j'attendais qu'on me paye. Et voilà qu'il y a des situations.
Des heurts entre souscripteurs, forces de l'ordre et de sécurité ont embrasé la situation au cours d'une journée, obligeant les autorités à placer le quartier à Hala sous surveillance policière. Les gendarmes, quant à eux, protègent le siège du MIDA, où l'accès est désormais interdit. Aucune réaction des autorités à la préfecture de Yaoundé et au ministère de la Communication. La présidente de la République a cependant prescrit le dédommagement de toutes les personnes ayant souscrit aux activités du MIDA. Son promoteur est encore gardé dans une compagnie de gendarmerie de Yaoundé. Plus de 2 milliards de francs CFA ont été recueillis par le MIDA pour le seul mois de février 2018. Emmanuel Julunta, Yaoundé, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Nous revenons maintenant sur le sommet historique entre les deux Corées. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont engagés à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne et à signer un accord de paix. Pour une analyse du sommet et de ce qu'il représente, Anastasie Tudiech s'est entretenue avec Marie-Orange Rivet, membre du groupe de recherche sur la Corée de l'École des hautes études en sciences sociales.
Déjà, c'est un succès, puisque le fait même de l'organiser, de réussir à mobiliser les Nord-Coréens, de la part du président sud-coréen, c'est déjà un exploit. il y a encore un an, c'était une chose totalement impensable. Donc, de ce point de vue-là, déjà, et de par la qualité des annonces qui ont été faites dans la déclaration conjointe, c'est déjà pas mal.
Qu'est-ce qu'on entend par dénucléarisation exactement, en termes d'étapes ?
Alors, justement, là, c'est une très bonne question, parce que je pense que les Sud-Coréens, les Nord-Coréens, voire les Américains ou les Chinois n'ont pas du tout, à mon sens, la même vision des choses. En tout cas, ce qui est très important, c'est qu'on soit d'accord sur le principe. Pour la Corée du Nord, il y a un revirement complet, puisque jusqu'ici, eh bien, c'était le programme nucléaire qui passait avant tout. Ce qu'on peut noter, c'est que peut-être que le dernier essai nucléaire qui a provoqué un tremblement de terre sous la montagne, puisque c'est en sous-sol, sous la montagne, eh bien, ça a peut-être détruit le site lui-même. Donc pour les Nord-Coréens, le fait de dire de dénucléariser, peut-être que c'était le bon moment. Mais sur ce plan-là, bon, je n'ai pas de preuves précises.
Quelles sont les contreparties prévues justement pour l'après-dénucléarisation ?
Alors là aussi, il n'y a rien de concret dans la déclaration. Ce qui va se jouer dans le sommet entre la Corée du Nord et les États-Unis dans un mois à peu près, là, ce sera, à mon sens, beaucoup plus concret. Pour l'instant, on a bien compris que Kim Jong-un, le leader nord-coréen, voulait des garanties en termes de sécurité pour mettre en place cette dénucléarisation, ça se comprend. Et donc, il pourrait y avoir l'élaboration d'un projet commun de sécurité de la péninsule. Mais bon, là encore, il y a des étapes, notamment la signature d'un traité de paix qu'il faudrait déjà franchir.
Marie-Orange Rivet, quid du Japon ?
Le Japon pensait pouvoir se remilitariser grâce à la menace nord-coréenne. Si cette menace disparaît, évidemment, ça va être beaucoup plus difficile pour le gouvernement japonais de justifier en interne la transformation de l'article 9 de sa constitution. Pour l'instant, c'est un succès, en tout cas, tout à fait pour les Coréens eux-mêmes. Il y avait une grande... d'un point de vue affectif, en tout cas, ça a remué beaucoup de choses et c'est vrai que ça c'était important avant la question purement politique.
Nous écoutions Marie-Orange Rivet de l'Université Paris Diderot et membre du groupe de recherche sur la Corée de l'École des hautes études en sciences sociales. Elle était en ligne de Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Une colline verdoyante surplombant la ville de Montgomery en Alabama accueille un nouveau mémorial, le premier du genre aux États-Unis, en mémoire des victimes de la terreur raciale et du lynchage. Il a été fondé par l'Initiative pour une justice égale, une ONG qui espère que cette œuvre va contribuer à changer le discours racial en Amérique. Kane Farabo a couvert hier l'ouverture de ce musée. Son reportage est relaté par Idriss Fall.
Parmi les nombreux visiteurs, Isoke Femi, qui a quitté la Californie pour venir assister à l'ouverture de ce musée de l'héritage. Elle s'est levée tôt hier et a fait la queue pour obtenir un ticket d'entrée. Le plus dur étant derrière elle, Isoke Femi peut alors étaler son émotion après ce qu'elle a vu ici.
Mon expérience ici, c'est une douleur profonde.
Le musée de l'héritage est bâti sur le site d'un ancien entrepôt d'esclaves de Montgomery, à l'époque épicentre du commerce esclavagiste aux États-Unis. Ce musée expose l'asservissement des gens de couleur et les incinérations de masse pour aider à comprendre ce que les Noirs ont subi aux États-Unis. Le révérend Jesse Jackson, leader des droits civiques, a assisté à l'ouverture.
5000 Noirs ont été lynchés entre 1880 et 1940.
Juste à côté du musée se dresse un mémorial pour la paix et la justice. Avec des arbres et son espace vert, il veut honorer les victimes de lynchage et raviver un souvenir tragique pour les arrière-petits-fils d'esclaves. Le révérend Jesse Jackson.
Nous devons faire face à la vérité sur nos origines. Nous sommes une société post-génocidaire, post-esclavagiste et post-Jim Crow.
Et nous ne sommes pas encore devenus une société post-raciale, estime Mark Potok de la Southern Poverty Law Center.
Ce sont les Blancs de ce pays, particulièrement ceux du Sud, qui ont fébrilement peur de faire face au passé.
Pour cet écrivain, à cause du racisme et de la bigoterie, particulièrement dans l'État de l'Alabama qui accueille ce musée et ce mémorial, ce passé n'est pas consigné dans les livres d'histoire. Et il faudrait, selon lui, se rappeler qu'il y a tout juste 15 ans, la majorité des Blancs de cet État ont voté pour garder les écoles séparées. Le révérend Jesse Jackson précise de son côté qu'il y a encore quelques 4 millions de Noirs qui ne sont pas inscrits pour voter dans le Sud. Le chemin à parcourir est encore long, surtout avec les récentes bavures policières contrées par le mouvement Black Lives Matter.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Et voilà, point final à ce numéro du Monde Aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Sheikh Thierro. C'était notre ami Sidrak Franklin qui était à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée et un très bon week-end sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 12 mars, le premier ministre de la Santé et d'Hygiène publique de Côte d'Ivoire a organisé à Abidjan la réunion initiale sur la première étude nationale sur l'impact du sida qui a porté sur plus de 20 000 personnes à ce jour. L'étude, appelée « Évaluation de l'impact du sida sur la population de Côte d'Ivoire » ou CIFIA, a pour objectif de tester un échantillon représentatif de la population ivoirienne pour ensuite utiliser des modèles statistiques afin de mesurer le niveau actuel de la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Le projet CIFIA est financé par le plan d'urgence du président américain pour l'aide contre le sida, le PEPFAR. La Côte d'Ivoire fait partie des 13 pays en passe de contrôler l'épidémie du sida d'ici 2020 grâce à la récente stratégie d'accélération du PEPFAR. La réunion du comité d'organisation du projet CIFIA a fourni des directives stratégiques ainsi qu'une supervision de l'étude ayant commencé en août 2017. Jusqu'ici, environ 11 000 ménages y ont participé et ont donné leur échantillon de sang. Les résultats préalables du CIFIA sont attendus pour décembre 2018. Selon Catherine Bracker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, ces estimations sont des projets complexes et j'applaudis le haut niveau d'engagement des tant d'intervenants dans ce projet. Des représentants du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies ont assisté à la réunion, à l'invitation du Dr Raymond Goudou-Goffi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est elle qui préside le comité et a été représentée par son directeur de cabinet. Lors de cette réunion, le Dr G. Laïssa Ouedraogo, directrice pays du CDC, a expliqué qu'une fois achevé, le projet CIFIA aidera la Côte d'Ivoire à mieux cibler sa prévention et ses efforts de traitement du sida. Celle-ci a également loué le ministère pour son leadership et son expertise. Des représentants de l'Institut national des statistiques ainsi que l'Organisation mondiale de la santé ont également intervenu au début de la rencontre. le Lesotho, le Malawi, le Swaziland, l'Ouganda, la Zambie ainsi que le Zimbabwe ont mené à bien des évaluations similaires de l'impact du VIH sur la population au cours des 18 derniers mois soutenus par le PEPFAR. Le CDC et d'autres participants tels que l'ICAP de l'Université de Columbia aident aussi le gouvernement avec ses études. Et selon la chargée d'affaires Bracker, les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont un partenariat très ancien en termes de santé publique datant de plus de 30 ans. Nous sommes conscients que des bonnes données scientifiques sont essentielles pour parvenir au contrôle de l'épidémie de SIDA-VIH. Je suis donc réconforté par ces discussions productives sur l'utilité des résultats du projet SIFIA.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à bord.